C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 25 mai, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, aujourd'hui, un ciel dégagé, on a autour de 10 degrés ce matin et ça va grimper jusqu'à 23. C'est une très, très belle journée, du temps ensoleillé, avec pour la soirée plus de nuages, autour de 15 degrés durant la nuit. Et demain jeudi, on prévoit d'abord le matin du temps couvert, 40% de probabilité d'averse avec des vents aussi, surtout en après-midi, là, des pointes à 40 km/h. Le maximum 24, demain l'humidex est à 27 et vendredi on termine la semaine avec des averses. Des salutations spéciales pour commencer ce matin aux gens qui sont toujours privés d'électricité, principalement les mêmes régions, là, c'est-à-dire les Laurentides, Lanaudière, l'Outaouais. Encore 80 000 clients de Hydro-Québec qui ne sont pas branchés. Donc salutations à ces usagers qui m'écrivent, là, tant bien que mal, parce qu'en plus les connexions cellulaires sont difficiles. Et aux équipes de Hydro-Québec, puis aux équipes également qui viennent en appui aux monteurs de Hydro-Québec. Hier, l'objectif n'a pas été atteint, mais on comprend le niveau de complexité de certaines opérations. Puis je sais que pour bien des gens qui regardent ça, ils comprennent pas trop. Un monsieur qui m'écrit dans tel secteur à Piémont, pourquoi il n'y a pas d'électricité, parce que les câbles sont enfouis. Oui, mais peut-être pas ailleurs, et donc ça se rend pas. Et il y a des endroits où il faut élaguer beaucoup, il faut nettoyer avant de pouvoir faire les opérations de rebranchement. On va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord, ce qui vient me chercher, ce qui vient vous chercher, ce qui nous assomme complètement. Encore une fois, je dis bien encore une fois, une fusillade, une tuerie dans une école primaire, c'est au Texas. Le bilan, 19 enfants ont été assassinés. 2 adultes ont été abattus. Et le tireur est un jeune homme âgé de 18 ans. Richard Châteauvert est à New York. Richard, ben d'abord, il faut revoir un peu tout ce qui s'est passé depuis hier matin.
Oui, la tragédie est survenue peu après 11h30, heure locale, à Ubaldo, une ville de 15 000 habitants située à 135 km à l'ouest de San Antonio, au sud du Texas. Le jeune homme de 18 ans, Salvador Ramos, a atteint sa grand-mère de coups de feu avant de prendre la route en direction de l'école où il a fait une embardée. Ramos, qui était en tenue militaire, a ensuite marché vers l'école primaire et a ouvert le feu sur des enfants de 2e, 3e et 4e année. Il a été abattu par un agent de la police aux frontières qui est entré dans l'école sans attendre des renforts. Il faut comprendre que c'est près de la frontière mexicaine et il y a beaucoup de policiers aux frontières dans la région. Donc, l'agent a été blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Et la grand-mère, elle a été transportée à l'hôpital. On ne connaît pas son état ce matin. Et on ne sait pas précisément, Paul, quelle est l'arme du crime, mais on sait que Ramos avait posté sur son compte Instagram une photo de 2 armes d'assaut AR-15 qu'il a achetées légalement peu après avoir eu 18 ans. Il faut dire qu'au Texas, on peut acheter une arme à feu légalement à 18 ans, mais on ne peut pas boire d'alcool avant 21 ans. Et sur sa page TikTok, Ramos, il y avait une biographie de Ramos dans laquelle il disait « Les enfants, ayez peur ».
Bon, c'est quand même assez troublant parce que lui, il a fréquenté, sauf erreur, là, l'école secondaire qui est située à proximité.
Tout à fait, tout à fait. Il fréquentait l'école secondaire. Il avait été harcelé, dit-on. Ça semble être le cas du garçon qui a été harcelé, qui s'est vengé en achetant des armes à feu. Mais Paul, ce qui est remarquable, c'est à quel point cette tragédie ressemble à la tragédie de Newtown, survenu il y a presque 10 ans au Connecticut. D'ailleurs, c'était la tragédie la plus grave dans une école. 20 enfants et 6 adultes avaient été abattus. Cette tragédie qui est survenue hier est la deuxième plus grave de l'histoire des États-Unis. Et c'est la 30e tuerie de masse dans une école primaire ou secondaire depuis le début de l'année. Et on est à la fin mai. C'est quand même remarquable et encore une fois, la tragédie a suscité la consternation partout aux États-Unis. Le président Biden, qui rentrait d'un long vol depuis l'Asie, était triste et en colère.
Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone?
Pourquoi on vit avec ce carnage? Pourquoi on laisse les choses continuer? Et oui, notre colonne vertébrale, il a appelé les Américains à faire face, à tenir tête au lobby des armes à feu. Et Paul, coïncidence, la NRA, la National Rifle Association, le principal lobby des armes à feu aux États-Unis, tient son congrès annuel à Houston, au Texas, dans quelques jours, le prochain week-end. Et il y a le gouverneur du Texas et les deux sénateurs du Texas qui doivent prendre la parole lors de ce congrès. Est-ce que ce congrès va se tenir? On ne sait pas encore. Mais écoutez...
Mais juste te donner un exemple là-dessus, Richard. En 99, quand il y a eu la fusillade à Columbine, qui est au Colorado, il y a eu dans les jours qui suivaient un congrès justement encore de la National Rifle Association. Il y avait l'acteur Charlton Heston qui était présent. Et on avait réduit un peu les activités. Il n'y avait pas d'exposition. Je pense qu'on avait tenu là, les discours sur une période d'une journée seulement. Mais c'était quand même après une fusillade. Puis là, c'est après cette fusillade, l'événement qui est prévu à Houston.
On va voir ce qui va se passer ce week-end, Paul. Il y a Steve Kerr, l'entraîneur des Golden State Warriors de la NBA, qui avait déjà pris la parole à plusieurs reprises sur le contrôle des armes à feu et contre les armes à feu. Il était furieux hier avant le match de son équipe. Il a dit « Je veux que chaque personne qui m'écoute » pense à son propre enfant, à son propre petit-enfant ou à sa mère, à sa sœur. Il est temps de faire quelque chose. L'acteur Matthew McConaughey est né, lui, dans cette petite ville du Baldo où la tragédie est survenue. Il a lancé un appel à l'action, mais encore une fois, le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a publié un simple tweet dans lequel il s'est dit horrifié par la violence dégoûtante. Il a dit « Le pays tout entier prie pour les enfants, les familles, les enseignants, etc. » C'est toujours la même chose, Paul. Nos pensées et nos prières sont avec les familles et les enfants. Est-ce que cette fois-ci, il y a quelque chose qui va changer? Bien, c'est ce qu'on va voir, mais il y a une espèce de colère. Mais encore une fois, c'est une colère dans ceux qui sont en faveur du contrôle des armes à feu. Comme l'a dit Steve Kerr, il y a 90% des Américains dans tous les sondages qui sont en faveur de l'accroissement des vérifications préalables lors d'achats d'armes à feu. Mais les Républicains ne bougent pas. Ils ne veulent rien adopter. Et là, eh bien, ils pourraient très bien remporter la majorité au Sénat, de redevenir majoritaire. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? On ne le sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas, mais encore une fois, il y a au moins la moitié du pays ici qui est en colère.
Merci, Richard. Richard Châteauvert qui nous parlait en direct de New York. J'ajoute deux notes à ce que Richard vient de dire. Biden a soulevé un point hier qui était intéressant. En disant, ceux qui s'opposent à un contrôle plus strict des armes à feu vous diront que le problème, c'est un problème de santé mentale, que ce sont des gens perturbés, ce sont des gens qui souffrent pour toutes sortes de raisons de problèmes mentaux. Et Biden a dit, si c'est ça le problème, expliquez-moi pourquoi aux États-Unis ça se traduit par des carnages. Il n'y a pas qu'aux États-Unis où les gens ont des problèmes de santé mentale. C'est vrai partout dans le monde. Pourquoi aux États-Unis, il y a autant de gens qui meurent par balle tiré par des individus qui sont perturbés? C'est une assez bonne question. Et la deuxième note, c'est pour vous montrer l'ampleur de cette tragédie. On a demandé aux parents de se soumettre à des tests génétiques. Donc, on a fait un prélèvement pour établir l'ADN afin d'identifier les enfants. Il y a 19 enfants qui ont été tués, de jeunes enfants, comme Richard disait, et les blessures sont telles qu'on n'est pas capable d'avoir une identification à 100%. Et on ne veut pas imposer aux parents une horreur comme celle-là, ce qui fait que les parents sont testés, ont été testés hier, ont attendu le résultat et se sont fait dire dans 19 cas que leur enfant était décédé. Alors vous imaginez un peu ces heures d'angoisse et aujourd'hui, il y aura aussi d'autres rassemblements. Évidemment, l'école est fermée. Et la journée va nous permettre d'en savoir un peu plus, j'imagine, sur l'individu en question. Maintenant, ici, parlons de ces trois agressions au couteau. C'est pas des farces, là. Trois en l'espace de quelques heures. Bénédicte est de retour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur ces trois événements?
Bien, le premier à arriver reste, somme toute, assez inquiétant parce qu'on parle d'un adolescent de 14 ans qui a été poignardé après une altercation. Ça se passe en après-midi, en plus, à côté du parc Lucie-Bruno. Ça, c'est dans l'arrondissement Anjou. Il est autour de 16h30, boulevard des Galeries d'Anjou, avenue Marie-Gilles-Lajoie. Plusieurs groupes, plusieurs jeunes, deux groupes, altercation entre eux, et finalement, ça dégénère, et il y a quelqu'un qui sort une arme blanche, poignarde le jeune de 14 ans. Le groupe de suspects prend la fuite. On parle d'un jeune qui a été transporté au centre hospitalier. On parle pas de blessures qui mettaient sa vie en danger, mais quand même, scène de crime assez importante. Moi, je me suis rendue sur place. L'air des parents, là, l'inquiétude, parce qu'il y a beaucoup, il y a un terrain de soccer, il y a un terrain de balle-molle, beaucoup de jeunes qui jouent dans ce coin-là. Ça se passe quand même en fin d'après-midi. Et bon, là, pour l'instant, on n'a pas de suspect, pas d'arrestation dans ce dossier-là. Et quand on parle d'adolescents, on regardait ça, là, au moins depuis le début de l'année, au moins 5 adolescents ont été soit blessés ou soit tués par l'arme blanche du côté de Montréal. Ça, c'est le premier événement autour de 16h30. 15 minutes plus tard, il y a un homme de 42 ans qui est agressé encore une fois à l'arme blanche, mais dans un café de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, parc Extension. Et là aussi, encore une fois, c'est inquiétant parce qu'il y a un appel qui est reçu au 911 pour une personne qui se promène avec un couteau dans la rue. Et là, le suspect, c'est un homme de 29 ans qui entre dans le café. C'est sur la rue Jean-Talon, pas très loin de la rue Wiseman. Et il s'attaque à un homme, il le blesse au haut du corps. L'homme qui est blessé, mais on craint pas pour sa vie, lui non plus. Mais là, on sait pas trop, est-ce qu'il a choisi quelqu'un au hasard? Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu déséquilibré? Est-ce que c'est quelqu'un qui le visait? Il y a une enquête qui a été ouverte de ce côté-là aussi, un autre périmètre. Et là, écoute, quelques heures plus tard, autour de 20 heures, un homme de 42 ans, blessé gravement, poignardé dans une bataille au centre-ville de Montréal. Altercation entre deux hommes sur la rue Saint-Marc, près du boulevard Maisonneuve. Ça s'est passé sur la rue Maisonneuve, pardon. Et à un certain moment, il y a un des deux hommes qui a sorti une arme blanche pour poignarder l'autre. Victime gravement blessée. On a craint pour sa vie à un moment donné. On pensait que ça allait possiblement se transformer en meurtre. Et je me suis rendue sur place autour de... Je suis arrivée peut-être une demi-heure après. Il y a du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans
des
ce secteur-là.
Des étudiants dans ce coin-là, beaucoup.
Des étudiants dans ce secteur-là. Et rapidement, ça a dégénéré. Donc, là, beaucoup de témoins à rencontrer, mais on essaie de faire un lien avec ce qui a pu se passer sur cette rue-là. Pas d'arrestation d'effectuer. On ignore le motif, pourquoi ça a dégénéré. Donc, je te dirais que 3 enquêtes qui sont en cours. Et là, ça se passe sur une période d'environ 3h30. Donc, les policiers n'ont pas chômé. On parle d'un mardi soir aussi, je voudrais le rappeler. C'est pas nécessairement une soirée où, normalement, les gens, où ça dégénère. On voit ça plus en fin de semaine. Mais là, un mardi soir qui a pas été tranquille.
On parlait tantôt des coups de feu en direction d'une garderie. Plusieurs douilles retrouvées. Il n'y a pas de blessés, heureusement, là, mais il y avait des enfants qui n'étaient pas loin, puis il y avait des personnes aussi qui...
17h30, alors qu'il y a beaucoup de monde qui circule. Alors, je te dirais qu'on... Je sais que c'est un peu galvaudé de dire, bon, ça nous inquiète, mais là, quand ça se multiplie comme ça, en pleine heure de, où les gens circulent, on trouve comme plus les mots pour dire à quel point
non,
c'est inquiétant.
Non, c'est vrai que c'est préoccupant. Merci beaucoup, Bénédicte. Il y a panne d'électricité, je le disais, encore 80 000 clients qui ne sont pas branchés. L'objectif était de réduire encore plus le nombre hier, nous avait dit la présidente Sophie Brochu. Cependant, les équipes se heurtent à des difficultés sur le terrain, pas simple. Il faut se déplacer, c'est des secteurs des fois qui sont difficiles d'accès. Il faut nettoyer autour des transfos, des fils. Donc, les réparations prennent plus de temps. Et la conséquence, c'est qu'il y a des gens donc, qui sont privés d'électricité. Puis dans certains cas, ça veut dire aussi privés d'eau courante depuis samedi 17h. Connexion cellulaire également, pas facile. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, le seul point de contact, ça demeure la radio. Et on est là pour vous. Alors, impossible de vous dire à quel moment vous allez retrouver l'électricité. On a quoi? Je pense que c'est 1500 pannes au total encore. Alors, c'est sûr qu'il faut penser à du moyen terme dans certains cas, puis même vous dire que ça va prendre encore quelques jours, probablement. Et vous avez peut-être des amis, des proches, des membres de la famille. Puis je sais que pour des gens, ça devient comme une source d'irritation. Je comprends ça. Mais en même temps, c'est un peu malheureusement... le prix à payer quand il se passe des phénomènes météo extrêmes comme ceux-là, puis que ça touche beaucoup de monde, mais un paquet de pannes, c'est pas comme une grosse source d'alimentation qu'on peut rebrancher, puis comme par miracle, on est capable de redonner l'électricité à tout le monde. Faut y aller, là, c'est du cas par cas. Et on le disait hier, malheureusement, on va être appelé à voir de plus en plus souvent, ce genre d'événements, pour le moins extrêmes en termes météo. Dans les autres nouvelles, ben vous dire, vous le savez, que la loi a été adoptée, la loi 96, qui vient bonifier la loi 101, qui vient renforcer des protections dans le cadre, évidemment, par exemple, de la langue de travail, de l'obligation pour les nouveaux arrivants d'apprendre le français, de communiquer en français avec le gouvernement. Je voudrais juste quand même prendre 2-3 secondes ce matin pour, je dirais, défaire quelques mythes. La loi 101, quand elle a été adoptée, elle a été aussitôt attaquée devant les tribunaux. Il y a des pans de la loi qui sont tombés. Et les mêmes acteurs, on les revoit. Mon ami Julius Gray, qui dit qu'il va faire une bataille là-dessus. C'est clair là, qu'on se prépare à l'après débat à l'Assemblée nationale. Je sais qu'il y a une clause dérogatoire dans la loi. Ils ont trouvé ce moyen pour faire en sorte donc de limiter les contestations, mais elles auront lieu, même si elles sont probablement vouées à l'échec. Deuxièmement, on a vu hier le partage des voix. Le Parti québécois a voté contre et le Parti libéral a voté contre. Ce qui a fait dire à la CAQ, voyez, les deux partis, les vieux partis, sont pas confortables avec ça. PQ dit ça va pas assez loin, puis le Parti libéral qui, entre vous et moi, se cherche une place, je dirais, dans le paysage linguistique et politique, là, et se sent menacé par son vote traditionnel anglophone. Bon. Et vous avez Québec solidaire qui dit « Oui, moi, je vote pour parce que c'est du programme. En même temps, si je prends le pouvoir, ben là, on va modifier des trucs. » Il y a 2-3 enjeux qui ressortent. Le premier, c'est celui de la bureaucratie. Puis là, je vois des avocats ce matin dans le Journal de Montréal qui disent « Le pique-nique commence parce qu'il va y avoir des contestations, il va y avoir de la bureaucratie linguistique. Les petites entreprises qui sont maintenant sous juridiction de la loi vont devoir ajuster la nécessité de parler français pour obtenir un emploi. Bref, on va avoir quelques psychodrames dans les prochains jours. Deuxièmement, la capacité d'offrir des cours de français. On a beau mettre ça dans une loi, là. La vraie vie, c'est que des immigrants qui débarquent, puis je vous donnerai des cas plus tard, là, sont incapables d'obtenir une place dans, je dirais, un environnement raisonnable. Donc, des gens qui veulent apprendre le français, là, qui parlent pas un mot de français, qui arrivent ici, des réfugiés, par exemple, puis qui se font dire, malheureusement, il n'y a pas de place pour vous. Puis, troisièmement, ces contestations-là, puis tout le débat sur la santé, le Collège des médecins dit, ouais, on a tellement de zones grises qu'on se demande, est-ce qu'un médecin va pouvoir parler, exemple, en anglais à un patient anglais, en mandarin à un patient mandarin chinois, si ça y tente, puis s'il est capable. Je pense que l'État va pas intervenir là dans la langue entre un médecin et son patient. T'sais, je veux bien faire certains débats puis certains enjeux, mais ça ne me semble pas être, disons, quelque chose de majeur. On va en reparler un peu plus tard ce matin. Et aussi, rapidement, dans quelques autres nouvelles, Justin Trudeau qui a dû annuler hier sa présence à une activité de financement en Colombie-Britannique. Il y avait des manifestants qui étaient à l'extérieur, c'était à Surrey. Et semble-t-il qu'il y avait des insultes racistes qui étaient criées de l'extérieur. La plupart des gens qui étaient présents faisaient partie d'une communauté, c'est pas clair, on dit d'Asie du Sud, là, dans l'article de la presse canadienne, mais bon. Alors, M. Trudeau, plutôt que de se pointer là, a fait un zoom pour dénoncer l'intimidation. Et un petit discours de 3 minutes seulement. Également un mot sur l'Ukraine ce matin. Les combats violents font toujours rage dans le Donbass. Les frappes sont importantes venant des Russes. Et à Mariupol, on a appris qu'il y avait environ 20 000 personnes, des civils, là, qui étaient décédées depuis le début de l'état de siège. C'est une ville qui a été complètement défigurée. Et je vous parlerai également tantôt du marché immobilier. Je vais conclure là-dessus. Parce que vous avez l'économiste en chef du mouvement Desjardins qui précise que les prix des maisons pourraient reculer de 12%. Là, il y a un paquet de facteurs, là, mais que la folie, que la flambée risque de s'atténuer. Ça, c'est un. Deux, dans le journal Le Monde ce matin, on parle du marché, en France, là, le marché immobilier complètement fou dans la capitale économique du Québec. On obéit désormais à la loi du plus offrant. Alors, même nos amis français sont préoccupés par ce qui se passe, cette surchauffe du marché de l'immobilier. Puis, il y a Protégez-vous qui lance un guide, je finis avec ça, le bulletin des constructeurs d'habitations neuves. La cote existe, mais elle n'est pas connue. Est-ce que vous aimeriez savoir si l'entrepreneur à qui vous confiez le mandat de bâtir votre maison a obtenu un A, un B, un C ou un D? Et c'est quand même intéressant parce que la donnée est connue, mais c'est pas malheureusement accessible pour les consommateurs. On va vous en parler tantôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Encore une fois, je dis bien encore une fois, une tuerie de masse. Et encore une fois, c'est une école primaire qui est ciblée au Texas. 19 enfants ont été assassinés. 2 adultes ont été également abattus. Et le tireur qui est décédé est un jeune homme âgé de 18 ans. Richard Châteauvert est à New York, évidemment. Richard, tu nous dis un peu d'abord comment ça s'est passé cette journée, la chronologie des événements.
Oui, la tragédie est survenue peu après 11h30, heure locale, à Ubaldo, une ville de 15 000 habitants située à 135 kilomètres à l'ouest de San Antonio, au sud du Texas. C'est tout près de la frontière mexicaine. Donc, la majorité de la population est constituée de Latinos. Le jeune homme de 18 ans, Salvador Ramos, a atteint sa grand-mère de coups de feu avant de prendre la route en direction de l'école où il a fait une embardée. Ramos, qui était en tenue militaire, a ensuite marché vers l'école primaire et il s'est promené de classe en classe et ouvert le feu sur des enfants de 2e, 3e et 4e année au moyen d'une arme d'assaut AR-15. Il avait en sa possession des chargeurs haute capacité. Ramos a été abattu par un agent de la police aux frontières, mais plusieurs agents de la paix ont ouvert le feu dans sa direction. Quant à la grand-mère, elle a été transportée à l'hôpital. On ne connaît pas son état ce matin. Et Ramos avait acheté 2 armes d'assaut AR-15 légalement ce mois-ci, peu après avoir eu 18 ans. Parce qu'au Texas, on peut acheter une arme à feu à 18 ans, mais on ne peut pas boire d'alcool avant 21 ans. Et cette arme est si destructrice que... Dans un certain nombre de cas, on a dû prélever des échantillons d'ADN sur les parents pour identifier les enfants. Et Paul, il s'agit de la tuerie de masse la plus meurtrière dans une école depuis la tuerie de Newtown, au Connecticut, dans laquelle 20 élèves et 6 adultes avaient été tués. Puis il y a des similitudes parce que dans le cas de Newtown, le tueur avait tué sa mère avant d'aller à l'école et dans ce cas-ci, il a atteint de coups de feu sa grand-mère.
Puis ajoutons également que dans quelques jours à Houston, donc au Texas, se tiendra le congrès de la National Rifle Association et qu'en 99, lors de la tuerie de Columbine, donc l'école secondaire, il y avait à Denver, c'est au Colorado, avait à Denver aussi un congrès de la National Rifle Association. Puis on sentait hier que même pendant, disons, les témoignages, nos prières, nos pensées, beaucoup d'émotions, déjà là, les lobbies s'organisent pour pas qu'il y ait d'entrave à la circulation des armes.
Non, tout à fait, parce que l'ancien président Trump, le sénateur du Texas, Ted Cruz, et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, doivent prendre la parole lors de ce congrès qui se tient le week-end qui vient. Et semble-t-il que, malgré la tragédie d'hier, ils vont prendre la parole. Et le sénateur Ted Cruz, hier, a dit, la solution, c'est d'avoir des agents armés dans les écoles. Et le procureur général du Texas, lui, a dit, la solution, c'est d'avoir des enseignants armés. Donc, les républicains ne bougeront pas apparemment et ils vont maintenir leur ligne favorisant la liberté. D'ailleurs, l'an dernier, Paul, la législature du Texas a adopté 9 lois libéralisant le port d'armes et les Texans qui possèdent légalement une arme à feu ont le droit depuis l'an dernier de la porter en public, mais sans permis et sans aucune formation.
Incroyable. Parlons du président Biden qui était de retour de sa tournée en Asie et hier une brève allocution pour illustrer découragement et colère.
Oui, il venait de faire un voyage de 17 heures en avion. Il a évoqué un carnage. Il a appelé les Américains à tenir tête au lobby des armes à feu et à finalement agir. Le président a noté que les États-Unis sont le seul pays au monde où il y a autant de tueries de masse.
They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost.
But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why?
Il y a des problèmes de santé mentale, il y a des disputes conjugales dans les autres pays, a dit M. Biden. Il y a des gens perdus, mais ce genre de tuerie de masse ne se produit jamais à la même fréquence qu'aux États-Unis. Pourquoi? Et le président a rappelé que lorsque les armes d'assaut ont été interdites pendant 10 ans, parce qu'elles ont été interdites de 1994 à 2004, pendant qu'elles ont été interdites, les tueries de masse ont diminué et lorsqu'elles ont été permises à nouveau, les tueries de masse ont augmenté. Comme on vient de le dire, Paul, le problème, c'est l'accès aux armes à feu, mais surtout la culture des armes à feu aux États-Unis et particulièrement au Texas.
Merci, Richard Châteauvert, pardon, en direct de New York. Maintenant, Joanie Paillé est avec nous. Elle est tutrice dans une école primaire de San Antonio, au Texas, donc c'est tout près, enfin relativement près de la ville où s'est produite cette tragédie. Elle est aux États-Unis depuis 8 ans, puis elle demeure au Texas depuis 1 an. Madame Paillé, bonjour.
Bonjour, bon matin.
Parlez-moi d'abord de la façon dont vous avez appris la nouvelle de cette fusillade terrible dans une école du Texas hier.
Oui, dans le fond, j'ai reçu un appel de mes parents, même pas de l'école, dans le fond, qui nous ont informés, qui voulaient savoir, dans le fond, si j'allais bien prendre de mes nouvelles, à savoir, bon, si c'était mon école, puisqu'ils sont pas... ils savent pas vraiment c'est où à San Antonio et tout, puisque c'est très grand. Oui, c'est ça que, c'est comme ça que j'ai appris la nouvelle hier.
Comment vous avez réagi?
Je veux dire, c'est sûr que depuis que j'ai su, je veux dire, on est toujours sur mon garde, mais je veux dire, depuis que je suis au Texas, je suis toujours sur mes gardes à l'école aussi. L'école prend beaucoup de précautions. C'est sûr qu'on se prépare toujours à si jamais. C'est sûr qu'à chaque jour, j'y pense, puisqu'on est au Texas, puisque les armes sont légales et tout. Donc,
ça veut dire qu'à chaque fois que vous entrez à l'école, vous avez cette pensée-là en disant il peut arriver quelque chose, il y a tellement d'armes qui circulent.
Oui. Chaque jour, quand je pars à l'école, quand je vais dans les magasins ici, faire l'épicerie, peu importe, parce que c'est très normal ici d'avoir une arme. Mes collègues, amis, tout le monde a des armes ici. Moi, je suis pas intéressée, mais c'est sûr que ici c'est très normal parce qu'ils pensent qu'ils se protègent puisqu'ils ont une arme.
Est-ce qu'il y a des collègues à l'école qui vont à l'école, je parle d'enseignants par exemple, avec des armes à feu?
Non, les armes sont pas permis dans le fond à l'école, mais disons que pour aller faire l'épicerie, ils l'ont toujours dans leur voiture, disons. Ils l'ont toujours avec eux, autres, mais pas à l'école.
OK.
C'est sûr.
Parlez-moi un peu des mesures que vous prenez dans votre classe, parce que j'ai bien compris, c'est une classe où il n'y a pas de fenêtre.
Non, il n'y a pas de fenêtre alentour de notre école. Mais les prescriptions qu'ils prennent, dans le fond, à chaque environ 2 à 3 mois, ils font des lockdowns qu'on appelle en anglais. Dans le fond, je pense que c'est un peu comme un isolement où ce que les enfants doivent se cacher en dessous de l'étable, puis se mettre dans le plus loin de la porte, dans le fond. Puis on met toujours un petit rideau en avant de la fenêtre de la porte, puis tout le monde reste en silence pour environ 15-20 minutes. Puis ça se passe environ à chaque 2-3 mois.
Et comment les enfants réagissent?
Je pense que je travaille dans une école qui est très... disons, les enfants sont habitués, puisque le voisinage... Ils ne dorment pas à la maison parce qu'ils disent qu'ils entendent... Ils disent comme tirer dans le voisinage... Donc souvent on a des élèves qui dorment à l'école puisque c'est leur sécurité. Donc c'est sûr que d'apprendre ça, que ça s'est passé au Texas à environ 1 heure d'ici, les enfants pour eux l'école c'est leur sécurité. Puis maintenant on se demande si l'école c'est vraiment la sécurité.
Si j'ai bien compris, vous dites qu'il y a des enfants qui dorment à l'école parce qu'ils entendent des coups de feu.
Oui, ils entendent des coups de feu la nuit. Je veux dire, toute la nuit, puis ils dorment pas, ils ont peur. C'est parce que c'est normal aussi d'avoir des armes, c'est normal de tirer les gens, ça peut en tout temps tirer, personne va se retourner, regarder, c'est normal.
D'abord, aujourd'hui à l'école, est-ce qu'il y a des choses de prévues? Comment se passe le retour en classe ce matin?
Oui, donc ce matin, on reçoit pour nos quatrièmes années, puisqu'ils vont aller, on appelle le middle school. Donc, on fait un petit événement avec les parents, où est-ce qu'on va leur donner un petit diplôme. Puis, c'est sûr que les professeurs, on voulait envoyer un message aux parents, de leur dire d'apporter seulement un petit sac ou juste une carte d'identité avec eux. Puis des fleurs peut-être, parce que je veux dire, c'est sûr que recevoir tous les parents, tout le monde dans une pièce, c'est sûr que ça, c'est stressant.
Est-ce qu'il y a des policiers qui vont être sur place à l'école?
Oui, à chaque matin, nous avons une police, policier qui reste dans le fond devant l'école. Puis je pense qu'ils vont lui demander de rester jusqu'à la fin de la cérémonie, au moins, juste parce qu'on ne sait jamais avec les événements d'hier.
Merci beaucoup, Mme Paillé, d'avoir pris ce moment-là avec nous. Bonne journée.
Oui, merci. Bonne journée.
Au revoir. Joannie Paillé, elle est tutrice dans une école primaire de San Antonio, au Texas, donc à une heure environ de la ville où s'est déroulée cette tragédie. Je rappelle, 19 enfants qui ont été assassiné quand vous dites que vous devez utiliser l'ADN pour jumeler parents et victimes pour être capable d'identifier tellement les blessures sont effroyables.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Maintenant, Frédéric Lemieux est avec nous. Il est directeur au programme de maîtrise en renseignement à l'Université Georgetown. Il connaît très bien tout le phénomène des tueries de masse aux États-Unis. Monsieur Lemieux, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette tuerie? Qu'est-ce que vous en comprenez quand on regarde l'ensemble de ces événements violents qu'on voit dans des écoles primaires et secondaires depuis quelques années?
Ben, écoutez, moi, je vous dirais que c'est un événement qui était quand même assez rare dans une école élémentaire. Je veux dire, il n'y en arrive pas aussi souvent, par exemple, que dans les écoles secondaires, par exemple. Mais c'est un événement. Mais les incidents, si vous voulez, les fusillades en général dans les écoles, c'est quelque chose qui est quand même assez monnaie courante aux États-Unis. Le CDC, qui est l'organisation qui, si vous voulez, suit la violence dans les écoles, la violence par les armes à feu dans les écoles, a recensé près de 2000 fusillades dans les écoles depuis 1970. Donc c'est un phénomène qui est assez fréquent.
À chaque fois qu'un événement comme ça arrive, dans une école, dans un supermarché, mais particulièrement dans une école, puis je dirais, on a tous en tête le San Diego, quand le président Obama avait fait son discours, et les gens se disaient, ben ça y est, ça prenait un événement d'une telle violence avec des enfants comme victimes pour que les lois soient plus sévères, et c'est pas ça qui est arrivé. Le président Biden a dit hier, mais qu'est-ce qui fait qu'on cède tout le temps au lobby? Pensez-vous cette fois qu'il peut y avoir des changements ou si dans 48 heures, 72 heures, on va être passé à autre chose?
Ben écoutez, je ne penserais pas qu'il va y avoir des changements énormes, comme par exemple une loi fédérale qui va être passée de manière rapide. Je vois pas ça arriver juste par la composition, si vous voulez, du Sénat en ce moment en termes de vote. Je peux voir, par exemple, président Biden avoir un genre d'ordre exécutif pour limiter l'accès. Je pense que Obama avait fait ça. Il avait fait un ordre exécutif pour limiter l'accès à certaines personnes, par exemple des personnes ayant des troubles de santé mentale, des trucs comme ça. Ça a été d'ailleurs renversé lors de la prise de pouvoir par Trump. Mais je vois pas de loi, par contre, là, dans un genre de moyen terme ou à court terme, là, je vois pas de loi venir. Puis même là, s'il y avait une loi, pensez-y deux minutes, la Cour suprême, qui est totalement contrôlée par les Républicains, probablement renverserait n'importe quoi au nom du deuxième amendement. Donc, je sais pas, je vois pas, il n'y a pas beaucoup d'espoir sur le plan législatif, là, à moyen terme ou à court terme.
J'entendais hier sur Fox News, pour pas nommer la chaîne, des analystes, bon, on connaît l'orientation de la chaîne, là, mais qui ouais. Disaient ben ça prend un garde armé devant chaque école, ça prend peut-être même des professeurs armés, Faut renforcer les mesures de sécurité, faut contrer les gens qui ont des problèmes de santé mentale puis qui attaquent. Il y a des policiers à la retraite qui vont se faire un plaisir. Pensez-vous qu'on s'en va vers ça?
Je pense qu'on y est déjà. Hein. Je pense que beaucoup de mesures comme celles-là qui ont été adoptées, c'est-à-dire que, écoutez, là, mis à part les tueries de masse, il y a des écoles en milieu urbain, pensez dans la région de Chicago, dans la région de Los Angeles, où est-ce qu'il y a un système de sécurité comme à l'aéroport, juste pour rentrer à l'école. Donc, on est déjà là, je pense. Est-ce que ça va s'étendre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir qui va s'étendre aux milieux ruraux, par exemple, ou aux États qui font moins face à ce genre d'incident? Oui, probablement. Je pense qu'on va plus s'en aller vers des mesures de prévention physique que des mesures de prévention législative.
Merci beaucoup, M. Lemieux. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Frédéric Lemieux est le directeur au programme de maîtrise en renseignement à l'Université Georgetown et spécialiste des tueries de masse.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Évidemment, ça brasse beaucoup d'émotions. Ça vient nous chercher comme parents, comme adultes tout simplement, comme citoyens. Et ça nous rappelle la vague qui continue de ces événements dans des écoles, dans des supermarchés, dans des cinémas aux États-Unis. Puis aussi, ça nous rappelle Polytechnique et ça nous rappelle que le Canada tarde encore à resserrer, disons, les règles, les peines minimales pour la possession d'armes, sortir les armes de poing. On a eu ce débat, est-ce que ce sont les villes, le Québec, le fédéral qui s'en occupent? Le ministre Jolin Barrette nous disait tantôt qu'il était urgent qu'on procède avec tous les événements violents qu'on connaît actuellement. Nathalie Provost est avec nous. Elle est co-porte-parole de Poly se souvient et également, on le sait, une survivante de la fusillade de décembre 89. Nathalie Provost, bonjour.
Bonjour.
Quand vous avez entendu ce qui se passait hier au Texas, puis j'allais dire quand vous entendez à chaque fois qu'il y a une fusillade dans une école primaire, secondaire, un lieu public, j'imagine que ça vient raviver chez vous plein de choses, puis en même temps, peut-être vous donner un élan de plus pour poursuivre la bataille?
Oui, de la colère, hein? De la colère, d'impatience. Qu'est-ce que ça prend pour que les êtres humains apprennent? Hein? Je me pose souvent la question. Grande colère, puis froid dans le dos. Faut pas que ça arrive à nos enfants, hein?
Non, faut pas que ça arrive à nos enfants, mais en même temps, je regardais le débat hier là, qui se fait veut pas aux États-Unis, puis déjà la résistance, même pas 24 heures après le drame, des gens qui disent « Ouais, mais écoutez, si le prof avait été armé, ouais, mais si on avait un garde, oui, mais si... » C'est comme, on refuse de, comment je dirais, de voir cette réalité. Il y a que Biden qui a eu raison hier en disant « Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale partout dans le monde. » Pourquoi il y a qu'aux États-Unis où il y a autant de gens qui rentrent dans des lieux publics puis qui tirent sur le monde?
En fait, les États-Unis ont une culture des armes qui est renforcée par un lobby hyper puissant, par une économie aussi qui soutient ce développement-là, et puis par des croyances qui sont renforcées, que plus d'armes, c'est plus de sécurité. Puis on regarde pas les chiffres, on regarde pas la science, on regarde pas les données. Tous les pays où il y a un grand contrôle des armes, tous les pays où c'est beaucoup plus difficile, ils ont à tout point de vue moins de morts par arme à feu. C'est mathématique. Moins d'armes, moins d'accès, moins d'armes illégales, moins de tout. Et il faut urgemment que notre gouvernement à Ottawa entende qu'il faut qu'il légifère fortement et rapidement. C'est très intéressant ce qu'a fait le gouvernement Trudeau en 2020 avec l'interdiction qu'ils ont fait. Mais là, ils tardent. En ce moment, on a une liste d'armes interdites. Mais ce qu'il faut, c'est que les armes d'assaut soient interdites. Il faut une législation qui complète ce qui a été fait en 2020. Il faut qu'il y ait une décision fédérale pour les armes de poing. Il faut qu'il y ait des décisions fortes parce que inexorablement, c'est nos voisins. On s'en va, on risque ce qui se passe aux États-Unis. Le risque, il est vrai.
Mais on s'est déjà parlé il y a quelques mois. Vous étiez un peu sceptique sur la volonté de M. Trudeau d'aller. Ça allait pas assez vite. Puis vous m'aviez dit à un moment donné, on le voit quand il vient pour la cérémonie à Polytechnique, puis on sent. On l'écoute parler d'un côté, puis on attend des actions de l'autre.
Mendocino, en ce moment, semble nous écouter. En tout cas, les consultations auxquelles on peut participer. anticipées sont plus fortes et plus constructives que ce qu'on a eu depuis 2015. Donc, ça nous donne espoir. Il est nécessaire qu'ils prennent des décisions pour confirmer la décision 2020. Les promesses électorales de la dernière élection de M. Trudeau étaient fortes, non seulement sur le programme de rachat obligatoire, ce qui fait qu'on a qui est venu nous voir le 6 décembre cette année. Donc, le programme de rachat devrait être obligatoire. Il veut travailler aussi sur les chargeurs à grande capacité. Donc, on continue de travailler auprès d'eux. Il faut aussi qu'il y ait des décisions qui soient prises sur les armes de poing. Et au niveau fédéral, parce que tous les leviers, le contrôle des frontières, c'est fédéral, la criminalité, c'est fédéral, la loi sur les armes à feu, c'est fédéral, l'importation, l'exportation, c'est des grandes lois fédérales. Donc, il est nécessaire qu'il y ait des décisions fédérales. Ça peut pas être juste un gouvernement provincial qui décide pour les armes de poing. Et on continue de chercher de militer pour un meilleur contrôle au Canada. Faut pas une tuerie dans une école primaire. C'est une abomination, là. On n'est pas des pays en guerre, nous. Et que des enfants meurent par arme, ça n'a aucun sens. C'est inadmissible.
Je voyais hier les parents puis qui ont dû attendre des heures et des heures avant de se faire dire « Oui, votre enfant a survécu » ou « Malheureusement, votre enfant est décédé ». Ça a pris des tests d'ADN pour faire ce lien. C'est inimaginable. On parle d'une école, des enfants qui étaient à la veille du congé d'été. Ça n'a aucun sens.
Monsieur Arcand, ça fait bientôt 33 ans, ça fait plus que 32 ans que j'ai été blessée à Polytechnique. J'ai encore des marques sur mon âme, j'ai encore des marques dans mon corps. Ces enfants-là sont blessés à vie et tous les parents aussi. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est des traumatismes qui n'ont aucun sens. Il faut vraiment agir. Il faut vraiment, vraiment, vraiment. Et tous les arguments qui disent « mais c'est pas si grave, puis c'est juste de la santé mentale », c'est vrai, mais la santé mentale, là, on peut pas la voir comme ça, demain matin, il va faire quelque chose, on peut pas arrêter. Si on peut diminuer l'accès à des instruments destinés à tuer, ben on va avancer un peu. Il faut agir sur tous les plans, mais c'est tellement dangereux, une arme, c'est fait pour tuer, il faut limiter l'accès.
Merci, Mme Provost. Bonne journée.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Nathalie Provost, qui est co-porte-parole de Poly, se souvient.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On va parler d'économie. Le marché immobilier intéresse même le journal Le Monde ce matin. Donc, j'ai sursauté quand j'ai vu ça. Prestigieux journal français qui consacre un article au marché immobilier de Montréal, parle d'une espèce de flambée, de surenchère, ce dont on discute depuis fort longtemps. Et hier, le vice-président économiste en chef et stratège du mouvement Desjardins, Jimmy Jean, a présenté une espèce de mise à jour en disant « Voici ce qui risque d'arriver quand on regarde l'inflation, le marché du travail, l'habitation. » Il est avec nous ce matin. Monsieur Jean, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pour ce qui est de l'immobilier, est-ce que je comprends que vous dites aux Québécois « C'est en train de se stabiliser, puis en raison d'une série de facteurs, ben la valeur ou le prix des maisons va commencer à baisser un peu. »
Oui, tout à fait. Je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est se rappeler qu'est-ce qu'on a connu pendant la pandémie. Et ça a été une frénésie sans précédent. Même il y en a qui prédisaient un avenir quand même assez négatif pour le marché immobilier au début de la pandémie. On a vu tout le contraire avec l'effet du télétravail, les taux d'intérêt. On connaît les facteurs qui ont précipité cette effervescence-là. Mais il reste que selon nos projections, on va avoir atteint une appréciation de 50% depuis la fin 2019. C'est énorme. En si peu de temps, et c'est certainement pas quelque chose qui est durable. On a vu des comportements comme des offres multiples généralisées. Auparavant, on parlait de ce phénomène-là dans des marchés comme Vancouver, Toronto. Là, on l'a vu à l'échelle du pays. Même dans des petites localités, on a vu des comportements, des offres à l'aveugle, des ventes à 600 000 au-dessus du prix demandé dans des marchés comme Toronto. Puis en ce moment, les premiers acheteurs, c'est très, très difficile d'accéder au marché si ce n'est pas qu'ils reçoivent des transferts de dizaines de milliers de dollars de leurs parents. Donc, ce sont toutes des signes que le marché est très étiré et on s'attend à voir un certain rééquilibrage au cours des prochains trimestres.
Est-ce que, par exemple, la hausse des taux d'intérêt va avoir cet effet-là? Le fait qu'il y aura peut-être aussi des gens qui vont sentir un peu plus serrés avec des hypothèques plus lourdes, l'inflation parce que tout coûte cher. Autrement dit, quels sont les facteurs, selon vous, qui vont finir par amener une certaine baisse des valeurs?
D'abord et avant tout, c'est la baisse de l'abordabilité. Puis l'abordabilité, ça englobe plusieurs des éléments dont vous venez de mentionner. Donc, on a vu la forte hausse des prix. Et à cela s'ajoute maintenant l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui fait en sorte que par exemple, le premier acheteur qui regarde pour investir dans sa première propriété, en ce moment, au niveau de la mensualité, même avec une mise de fonds de 20%, à la fin de l'année, on devra avoir une augmentation de la mensualité moyenne, une augmentation de 33%. Donc, c'est énorme et on part de niveaux qui sont déjà élevés. Faut pas oublier non plus que les taux hypothécaires montent, mais le taux pour se qualifier est encore plus élevé. C'est 200 points de base au-dessus du taux hypothécaire. Donc, ça fait en sorte qu'à ces niveaux-là, il y a plusieurs ménages dont les revenus rencontrent pas les exigences de ratio pour être capable d'accéder à une hypothèque. Donc, les premiers acheteurs, c'est très important. Selon les travaux de la Banque du Canada, ça constitue à peu près 50% des transactions sur le marché immobilier. Donc, si beaucoup de premiers acheteurs doivent attendre, retarder leur entrée sur le marché immobilier, ça va avoir un impact sur la demande et en retour, ça va faire en sorte que certains des excès qu'on a vus au niveau des prix vont se renverser.
OK. Est-ce que vous dites, dans le fond, à ces nouveaux acheteurs là, qui sont potentiellement nombreux, d'attendre avant d'acheter?
C'est certain qu'en ce moment, on est très, selon ce qu'on prévoit, on est très proche d'un sommet des prix au Québec. Donc, on s'attend à ce que dans les prochains trimestres, on ait un recul. On estime le recul à 12%, ce qui fait en sorte que, par exemple, pour des gens qui ont acheté il y a quelques années, on va quand même tirer une plus-value. L'augmentation a tellement été forte qu'on va simplement renverser une partie de cette augmentation-là, mais il reste que le patrimoine des gens qui ont acheté, la plupart des gens qui ont acheté depuis 2019, va quand même avoir un bilan positif rendu à la fin 2023. Maintenant, pour les premiers acheteurs ou les gens qui regardent pour acheter, je pense que d'abord, avant tout, il faut penser à ses besoins. L'immobilier, c'est oui, on peut le voir comme un investissement, mais c'est d'abord avant tout un besoin pour une famille, pour un ménage. Et à partir de ce moment-là, on prend les décisions en conséquence. Oui, il est possible qu'on ait un certain ralentissement dans les prochains trimestres selon ce qu'on prévoit, mais l'immobilier, une maison, c'est un investissement qu'on fait pour des années, voire des décennies. Donc, il faut prendre ça aussi en considération.
Je veux vous entendre, M. Jean, sur d'autres aspects. Et là, je pense à des auditeurs qui se disent là que bon, on voit le chiffre officiel de l'inflation, mais on le sent, on le ressent quand on fait nos courses, quand on va à l'épicerie, puis des gens qui se disent un peu là. Ça coûte de plus en plus cher. Les taux d'intérêt vont augmenter. La bourse, ça va pas très bien. Mes placements perdent de la valeur. Avez-vous l'impression qu'on est dans une crise, un ralentissement économique ou c'est temporaire? Quelle est la lecture que vous faites du paysage actuel?
Tout à fait. Il y a énormément de pression en ce moment. Puis on le voit hein, dans les indices de confiance des consommateurs. Chaque fois que l'inflation est au-dessus de 3%, par exemple aux États-Unis, on voit l'indice de confiance de l'Université du Michigan adopter une trajectoire à la baisse. Et cette fois-ci, c'est pas différent. En fait, l'indice en ce moment est à son plus bas niveau depuis la récession de 2008-2009. Donc, les ménages ressentent l'impact des hausses de coûts. On voit beaucoup de changements dans les comportements. Il y a eu deux grands détaillants américains qui ont rapporté leurs résultats pour le premier trimestre et clairement, les acheteurs sont plus consciencieux, cherchent à réaliser des économies. Et c'est normal parce que le revenu disponible réel, donc lorsqu'on ajuste pour l'inflation, en ce moment, il est en rajustement, en rééquilibrage. On avait vu une forte augmentation avec les transferts gouvernementaux au début de la pandémie, mais là, on voit l'inverse, étant donné que l'inflation vient finalement rogner le pouvoir d'achat qu'on avait dégagé pendant la pandémie. Pas tout le pouvoir d'achat, mais une bonne partie du pouvoir d'achat, disons, excédentaire. Donc, c'est normal qu'en ce moment, Les consommateurs sont inquiets, il y a une situation de guerre, il y a encore les effets de la pandémie, les répercussions qu'on ressent encore, et il y a énormément d'incertitudes par rapport à l'inflation. Cela étant dit, le plus important pour un cycle économique, c'est le marché de l'emploi. En ce moment, on a un taux de chômage qui est à des creux records. Donc, c'est un peu la particularité dans l'environnement actuel. Les gens sentent que ça va mal, mais pourtant, sur plusieurs aspects, ça va encore très bien.
Merci beaucoup, M. Jean. Bonne journée.
C'est un plaisir.
Au revoir. JB Jean est vice-président économiste en chef et stratège du mouvement Desjardins.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Parlons maintenant des pannes d'électricité. Officiellement, il reste environ 80 000 clients d'Hydro-Québec qui n'ont pas d'électricité. Depuis samedi, grosso modo 17 heures, beaucoup d'auditeurs, d'auditrices nous ont écrit. Donc, pas d'électricité, dans certains cas, ça veut dire pas d'eau courante. Et c'est d'abord vous dire que la présidente, Mme Brochu, hier nous disait, on a un objectif pour la journée. La journée, malheureusement, n'a pas permis d'atteindre l'objectif en question. Donc, il y a plus de gens encore qui restent à brancher que ce qu'on souhaitait. C'est complexe. Il y a du nettoyage, il y a des arbres, il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Je vais en parler ce matin avec le maire de Saint-Sauveur, parce qu'on sait qu'il y a trois régions principalement là, qui sont touchées, c'est-à-dire les Laurentides, la Naudière et l'Outaouais. Jacques Gariépy est le maire de Saint-Sauveur. Monsieur Gariépy, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arquin.
D'abord, ça se présente comment chez vous ce matin? De combien de gens là, qui sont toujours privés de courant?
En fait, il y a 25% des propriétés qui sont pas branchées encore, qui représentent 2400 propriétés. Donc, on peut dire que c'est peut-être un 3500, 4000 résidents citoyens qui n'ont pas d'électricité ce matin.
OK. Et qu'est-ce qu'on vous dit du côté de Hydro-Québec? Pourquoi, dans certains cas, ça prend du temps puis ça risque de prendre encore plus de temps?
Bien, l'information vient pas d'Hydro-Québec parce que le dialogue, la communication est plus difficile avec Hydro-Québec là, dans le quotidien, mais on le voit sur le terrain. Là. C'est pas parce que les gens, l'Hydro-Québec n'est pas présent, on les voit, mais c'est difficile d'accès. Là. Il y a beaucoup de propriétés qui sont entourées de boisées, les arbres sont tombés partout, et puis on en est là, on est après nettoyer, on est dans le nettoyage d'arbres actuellement. Ce qui est important pour nous dans les premiers 24 heures, c'est de prioriser l'accès aux résidences, le dégager à l'entièreté du territoire routier. Ce qui a été fait dans les premiers 24 heures par notre service travaux publics et service d'incendie pour permettre aux camions d'incendie pour premiers répondants d'avoir accès aux propriétés, ça a été fait. Maintenant, là, on en est, chaque propriété est après dégager son contour de terrain pour donner accès à Hydro-Québec, justement, de faire les branchements nécessaires.
OK, je reviens sur deux choses. Quand vous regardez ça, là, est-ce que vous vous dites, dans certains cas, ça va prendre encore quelques jours avant de pouvoir les brancher?
Honnêtement, oui. Il y a certains coins, coin Mont-Habitant, par exemple, coin lac des Bexies, coin lac des Chats, c'est des places qui sont très, très, très affectées. Souvent, les fils électriques sont en arrière de l'eau, en arrière des terrains. Donc, c'est difficile d'accès. Puis, heureusement qu'on n'est pas en hiver, parce qu'en hiver, les pannes, c'est terrible. Mais là, au moins, l'accès est un petit peu plus facile, malgré qu'il y a des arbres partout, M. Arcan. C'est terrible de voir ça. C'est un désastre.
Avez-vous déjà vu ça? Autant de dommages, autant d'arbres, dommages à des structures?
En fait, on en a vu une, là, quelques années, là, il y avait eu vraiment une zone qui avait été délimitée, là, à travers Saint-Sauveur, qui comprenait le sommet de la Marquise. Dans ces coins-là, des arbres avaient été, mais c'est un corridor très étroit, là, puis ça avait touché à terre. Mais là, l'ensemble de la municipalité, puis je dirais l'ensemble des Laurentides, là, mais Saint-Sauveur en a été touché beaucoup, là, puis c'est pas juste un secteur, c'est tous les secteurs.
Quand vous m'avez dit tantôt que la communication est déficiente ou difficile avec Hydro-Québec, qu'est-ce que vous voulez dire?
En fait, on voit Hydro-Québec travailler. On aimerait ça pouvoir communiquer autant la direction générale des villes que puis de la mairie, voir. On n'a pas à leur dire quoi faire, puis ils n'ont pas à nous rendre des comptes, là, je le sais bien. Mais juste voir le plan de match pour qu'on puisse peut-être des fois jumeler les travaux. Les travaux publics peuvent être mis à contribution, puis au moins, à tout le moins, pour assurer nos citoyens. Les citoyens nous demandent seulement quand est-ce que l'électricité revient dans ma région. J'ai aucune idée quoi y répondre et puis je peux pas y répondre, puis je peux pas communiquer Hydro-Québec. Ben là, après-midi, là, on a une séance d'information avec Hydro-Québec, mais habituellement, c'est des converses, les dialogues, les retours d'appels sont difficiles avec Hydro-Québec.
Merci, M. Garriépy. Bonne chance à vous et à vos citoyens.
Merci, M.
Au revoir.
Merci.
Jacques Garriépy, Hébert de Saint-Sauveur. On prend l'exemple de Saint-Sauveur, mais je peux vous dire que ce matin, Piémont, puis dans la Naudière aussi, là, Sainte-Émilie, puis tout ce qu'on est là, donc des secteurs où quand même fortement, disons, boisés, c'est sûr que ça a cogné dur. Et dans certains cas, pas d'électricité, ça veut aussi dire pas d'eau courante. Ceux qui ont connu le verglas savent ce que c'est, là, puis c'était l'hiver en plus, c'était un autre coefficient de difficulté. Mais donc, c'est compliqué pour bien des gens de s'organiser. Mais au moins, il faut se conditionner à dire que dans certains cas, malheureusement, ça va prendre pas mal de temps.
C'est 23.